Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
J'aimerais aborder un sujet, je l'ai préparé pendant un an. C'est pas du rassis, c'est du bien cuit. Vous aimez ça? Bon, on va voir, on va juger hein, si je sors vivant ou pas. Mais j'aimerais quand même rappeler un petit peu d'histoire. Vous avez eu successivement plusieurs pasteurs pendant dans cette église depuis sa création en 1969, avec Monsieur Lebel, Monsieur Erard et puis plusieurs. Le pasteur que vous avez maintenant, c'est l'8e. Moi, j'avais choisi le chiffre parfait, le 7e. C'est en toute modestie que je vous dis ça. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait quand même des successions. Et j'aimerais dire quelques mots justement sur la suite qui est donnée. Parce que ce ne sont pas les hommes qui choisissent. Faut bien nous le dire, c'est Dieu. Et je pense qu'il y a un temps pour tout. Avec diverses personnalités, divers caractères, divers ministères. Et c'est ça justement ce que j'aimerais entrevoir avec vous. Le message que j'ai eu à cœur, je ne l'ai pas préparé depuis un an, hein, rassurez-vous, hein, je rectifie. Le message que j'avais à cœur de partager avec vous, c'est tout simplement Pierre, Paul, Jean et tous les autres. C'est intéressant parce que vous allez voir que quand même quand Dieu choisit, il fait bien les choses. D'une manière ou d'une autre, on ne comprend pas toujours. Mais il y a une nécessité pour l'Église. Et cette nécessité, je vous l'ai dit avant de partir, que l'Église, doit aller de progrès en progrès. Il doit y avoir une évolution, non pas tant en quantité, mais en qualité. Quand il y a la quantité et la qualité, merci Seigneur. Parce que aujourd'hui, dans nos contextes spirituels, dans nos églises, dans nos communautés, on voit souvent le côté quantitatif. Une grande église, c'est une bonne église, c'est une église formidable. Alors, je pourrais vous dire que, pour nous, pour notre part, dans mon ministère de 40 ans, on a été dans des grandes, et on avait choisi à la fin une petite, qui quand même, est constituée. Et je pense qu'il faut mettre l'accent sur la qualité. Et la qualité, c'est pas simplement une vue d'ensemble. C'est chacun personnellement, nous apportons notre contribution pour faire de l'Église, véritablement le corps de Christ vivant. Et c'est pas seulement dans nos murs le dimanche matin, c'est tous les jours de notre vie. Alors ça implique beaucoup de choses naturellement, c'est quelque chose qui est très intéressant. J'ai eu l'occasion justement de méditer le sujet, je réapparais là. Si vous aimez les réapparitions, me voici. Et vous savez que dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11, si ma mémoire est fidèle, il est dit que Dieu a fait des dons aux hommes. Vous vous souvenez de ça, vous l'avez lu et relu probablement. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les autres comme prophètes. Il a donné les autres comme évangélistes. Il a donné les autres comme pasteurs. Il a donné les autres comme docteurs, c'est-à-dire celui qui enseigne. Il y en a à voir avec la médecine. La théologie, si vous voulez aller par là. Et il est ajouté ceci sous la plume de l'apôtre Paul pour le perfectionnement, pour l'accroissement, pour l'édification des chrétiens. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ces enseignements de Paul parce qu'ils sont importants. Je vous ai dit Pierre, Paul et Jean. Et j'aimerais souligner les caractéristiques de chacun, parce que quand Jésus a appelé Pierre, vous vous souvenez des circonstances, je vous les rappelle pas, mais vous en souvenez, Jésus ne s'est pas trompé. Quand plus tard, beaucoup plus tard, Dieu a appelé au ministère Paul. Il ne s'est pas trompé non plus. Quand il a appelé Jean, eh bien, il ne s'est pas trompé non plus. Et quand Dieu appelle un homme dans un véritable ministère, eh bien, il ne se trompe pas. Maintenant, il y a le facteur temps qui va parler. Parce que je pense qu'il y a un lieu, un endroit, une personne qui correspond. Et Dieu le sait. J'aimerais justement m'intéresser à ces trois personnalités. Enfin, il faut dire que c'est quand même des drôles de personnalités, hein, les uns et les autres. Hein. Quand même, on pourrait peut-être parler des géants de la foi. Hein, mais bon, toujours est-il que il y a aussi encore aujourd'hui, même parmi nous, même dans cette église, eh bien des gens qui se caractérisent par une foi significative. Hein, et qui fait que même s'ils savent pas, même si ça ne voit pas et ça remarque pas, ils sont là et ils remplissent une mission de la part de Dieu, quoi qu'il en soit. Si nous commençons par choisi, ensuite appelé et établi, eh bien nous nous apercevons d'une chose qui est quand même significative, c'est que nous commençons par Pierre, par exemple. Pierre, personnage haut en couleur, personnalité, signifiée, significative. Écoutez bien, j'aimerais justement, en ce qui concerne Pierre, dire un petit mot de ce qu'il nous est dit dans sa rencontre avec Jésus, dans Matthieu chapitre 4, et au verset 18, il nous est donné cette parole. Alors, naturellement, c'est l'appel des premiers disciples, etc., etc. Et il nous est dit, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, et retenez bien la suite, parce que c'est ce qui va faire la différence pour développer la personnalité de Pierre, qui jetait un filet dans la mer. Pierre se trouve présenté pour la première fois avec son frère, André, et il est saisi dans son état de pêcheur de poissons. Il jetait son filet dans la mer. Si nous allons encore un petit peu plus loin, dans Matthieu, et peut-être un supplément d'information, chapitre 16 et au verset 19, il est dit ceci. Alors, c'est la première mention de l'Église, qui est en sous-titre, si vous voulez. Hein. Jésus lui dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Je retiens une chose, je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Sa contribution au royaume de Dieu, à l'œuvre de Dieu, s'accorde avec la déclaration de Jésus. Tu seras pêcheur d'hommes. Pêcheur à la ligne, pêcheur au filet, pêcheur d'une manière ou d'une autre, on sait ce que ça veut dire, et tu seras ainsi. La déclaration qui lui est faite par Jésus, c'est son état nouveau, en tant que homme nouveau, en tant que ayant choisi de suivre Jésus. Tu seras pêcheur d'hommes. Celui qui jette ses filets dans la mer, c'est la tâche d'amener les âmes dans d'autres filets, ceux du royaume de Dieu. C'est la mission première de la venue de Jésus. Allez partout le monde et faites de toutes les nations des disciples, etc., etc. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira sera sauvé. Et puis le reste, vous le connaissez, hein, vous l'avez si souvent entendu. Celui qui jette ses filets, Pierre jette ses filets, et il est tout désigné par son état premier d'homme pêcheur de poissons, eh bien à rentrer dans une vocation, il n'y aurait jamais pensé à ça, hein, c'était inimaginable, mais à rentrer dans cette dimension de remplir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et puis bien, on s'ajoutait naturellement, et bien, non pas pour une prééminence comme les églises traditionnelles l'ont faite, hein, parce que Pierre c'est pas plus que Paul et puis bien d'autres, hein. Mais il n'y a pas de prééminence. Il est question, dans le deuxième texte que nous avons lu, des fameuses clés qui impliquent une porte à franchir, hein, pour permettre à d'autres d'y entrer. Ouais. Ça, c'est la pensée, c'est le plan de Dieu. Quelquefois incompréhensible, parfois détourné, parfois spolié, parfois dénaturé, déformé, tout ce que vous voudrez. Non pas par les athées, hein, mais par les chrétiens, par les croyants, et par les religions. Passez-moi l'expression que j'appelle aujourd'hui, elles ne le savent pas, elles veulent pas le savoir, apostates, ceux qui ont détourné l'évangile et qui ont fait des hommes plus que Jésus, qui ont fait de la tradition plus que le message de l'évangile. Alors, ces clés, c'est pour ouvrir la porte pour que d'autres puissent y entrer à travers l'histoire de la Bible, l'histoire biblique, hein, les choses n'étaient pas accomplies, hein, à la fin du Nouveau Testament. Il y avait véritablement la grande révélation qui allait arriver, c'est-à-dire le message que nous connaissons dans le Nouveau. Et il s'agit du ministère de la parole. Quoi qu'il en soit, quels que soient les ministères qui sont appelés, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur ou le docteur, ce sont tous les cinq des ministères dons. Dieu les a donnés. Il y a d'autres services dans l'Église, mais des ministères donc cinq. Et ils sont tous appelés ministères de la parole, parce que ça passe par la parole. C'est pas tant de voir, mes frères et sœurs, c'est d'écouter. D'ailleurs, Jésus rappelle très souvent, écoutez, écoutez. Il ne dit pas vois, vois, ceci, cela. S'il dit à Thomas, mets ta main, tu vas voir. Mais autrement, c'est toujours écouter, hein. Donc des ministères de la parole. Ce qui doit caractériser les ministères d'aujourd'hui comme ceux d'hier, hein, c'est la prédication de la parole de Dieu. C'est le message de la parole qui va être décliné sous différentes formes, qu'elles plaisent ou pas. Mais le fond reste le même, c'est annoncer Jésus, sauveur. Ça, c'est important, ministère de la parole. Prenons Pierre. Il y a eu dans sa vie, pour marquer naturellement, et bien là, d'une pierre blanche, nous pourrions dire, et bien, confirmation de son appel, un événement mémorable. Quand on regarde le ministère de la Pentecôte, l'expérience de la Pentecôte, pardon, eh bien, vous vous rendez compte? 3000 âmes converties d'un seul coup? Là, je reprends du service. Et je suis pas sorti, hein. Ça vous fait sourire, mais moi, ça me fait pas sourire. 3000 âmes d'un seul coup. Une parole, devant cette foule réunie à Jérusalem. Et voilà qu'il y a des hommes qui vont être touchés profondément dans leur cœur et qui vont se tourner, qui vont croire en Jésus-Christ. Ça, c'est une pêche miraculeuse. Mais autre pêche miraculeuse que celle qu'il y avait, qui s'était passée quelques mois ou quelques années auparavant avec Jésus dans la barque sur le lac de Tibériade. Il y a un suivi dans la vie des gens, hein. Ouais. Les uns et les autres, vous nous avons été appelés à servir le Seigneur, mais Dieu tient compte de nos antécédents, notre passé, notre histoire. Quand on entend quelquefois des beaux témoignages de chrétiens qui nous disent, voilà, je suis venu, c'était inattendu. Et quel que soit là où Dieu les a extraits, hein, de quel milieu il les a extraits, mais c'est qu'il y avait toujours une préparation. Ça fait partie de la préscience. Alors, je ne vais pas rentrer dans la théologie, la prédestination de Dieu, parce que c'est un petit peu compliqué. Mais néanmoins, si vous êtes là ce matin, c'est qu'il y a des raisons. Il y a des raisons de ce que vous êtes sauvés, mais il y a des raisons aussi pour servir le Seigneur. Parce que moi, je voudrais vous donner quand même un petit peu, là, hein, de penser tout à nouveau que la vie chrétienne, c'est pas quelque chose qui va... Bon, vous êtes là, c'est bien, c'est sympathique, mais il y a quand même quelque chose à faire. Et de pouvoir prendre conscience... Et c'est pas une question de valeur, de responsabilité, quel que soit le niveau de ces responsabilités qui va faire la différence. C'est la conscience que nous avons de faire les choses pour Dieu, pour l'amour de Dieu, avec l'amour de Dieu dans nos cœurs, et de le faire en qualité. Il y a des choses qui paraîtront jamais sur la terre. Mais on les verra de l'autre côté et on sera surpris. Ça, je le crois. Des gens qui peut-être, enfin des chrétiens qui ont remué ciel et terre, mais ils ont remué du vent et de la poussière, hein. J'ose le dire. Mais c'est vrai. Parce que si c'est pour être vu, si c'est pour se faire voir, si c'est pour tomber sous le coup de ce que Jésus condamnera par rapport à la prière dans l'évangile, là, dans le sermon sur la montagne, ne faites pas de vaines prières, etc., et puis en multipliant, parce que bon. Non, mais attendez, hein, il y a un état d'esprit. D'ailleurs, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est débordant du Saint-Esprit, c'est plus nous qui commandons, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Ça ne veut pas dire que nous abdiquons notre intelligence et notre volonté. Hein. Non, c'est repris en sous-main pour véritablement être dans le profil qu'il convient. 3000 âmes, pêche miraculeuse. Et il ne devait pas en revenir. Hein. Quand il avait tiré ses filets avec Jésus là, la première fois, waouh, extraordinaire. Et encore, il a mis qu'un filet. S'il avait mis trois, je peux vous dire que ça aurait été extraordinaire. Hein. Mais là, c'est pareil, une simple parole, ministère, don de la parole. Il lance la parole, et voilà 3000 âmes qui se convertissent. C'est extraordinaire. Alors, il y a des juifs. Mais surprenant, c'est qu'il y a des non-juifs aussi. Et le salut va devenir, à partir de ce moment-là, universel. On peut le dire comme ça. Ouais. Dans la maison de Corneille, qu'est-ce qui se passe? C'était la confirmation que l'évangile était ouvert au monde entier. Lui qui était si délicat à Pierre en disant « Je ne touche pas à ce qui est impur », il lui dit « Écoute, hein, tu vas changer d'avis. » Enfin, je ne sais pas s'il lui a dit ça comme ça, mais toujours il dit « Tu vas changer d'avis parce que moi, ce que je déclare pur, eh ben, tu vas falloir que tu le vois comme pur. » Et il y a des choses quelquefois que nous avons du mal à comprendre. Mais bon, il faut passer par là parce que c'est comme ça. C'est la volonté du Seigneur, quoi qu'il en soit. Alors historiquement, sur le plan, on peut dire, de la tradition qui court encore et à tort, Pierre a tenu les clés et il a ouvert la porte. En cela, il est vraiment l'apôtre. Vous voyez, l'apôtre, c'est un pionnier. L'apôtre, c'est celui qui va dans des terrains qui n'ont jamais été évangélisés. C'est celui qui ouvre des régions, des continents, voire même, et qui va établir après des pasteurs, des anciens, etc. Lui, il va s'en aller pour évangéliser ailleurs. Ça, c'est l'apôtre. Et nous pourrions dire que Pierre est l'apôtre des commencements. Voilà, il y a toujours un commencement. Nos églises, qui sont quand même relativement récentes, elles ont à peine un siècle, les églises de Pentecôte, les églises des assemblées de Dieu. Il y a eu des pionniers aussi. Hein. Et quels pionniers ! Ouah ! Aujourd'hui, on serait certainement étonnés hein, de voir. Mais c'était un temps qui était inscrit dans la situation de l'époque. Hein. Et Pierre, eh bien, c'est un homme des commencements. Et il va vraiment être l'évangéliste, en quelque sorte. Et il prêche le salut en Jésus-Christ. C'est la porte. La clé par le moyen de la foi. On peut décliner ça avec des images très simples hein, ce matin. L'élément actif, hein, suscitant la confiance dans la parole de Dieu, c'est la foi. Avoir le don de communiquer la foi. Et pas de raconter n'importe quoi, même si on se base sur la Bible. Non, il y a notre témoignage personnel, peut-être parfois silencieux, mais il y a aussi notre manière de faire avec nos paroles et d'utiliser. Et ça, c'est son appel, c'est sa mission spécifique. Retenez bien, Pierre jette les filets, il jette le filet. Alors peut-être qu'il y a eu des pierres hein, dans la succession des 8 pasteurs qui sont passés dans cette église. Oui, on pourrait citer des noms, moi j'en ai connu, hein, ils sont venus, c'était vraiment des évangélistes. Voilà, comme il y en a encore aujourd'hui. Ils ouvrent la porte. Et puis après, il y a autre chose. Après, il y a autre chose, c'est la suite hein, qui va venir. Ils jettent les filets. Et à ce moment-là, eh bien, il va y avoir toute une œuvre de l'esprit. Il est passé de ces poissons morts à des poissons vivants, c'est-à-dire les hommes, naturellement, pour une autre vie. C'est une autre vocation, hein. C'est une autre dimension. Les mobiles, ou le mobile essentiel qui caractérise Pierre, est le suivant. Parce qu'il faut avoir ça aussi dans notre cœur, quand on est convaincu, quand on est converti, quand il y a l'esprit qui nous anime, ranime le don de Dieu. Nous avons besoin les uns et les autres de prier pour que Dieu ranime le don de Dieu. Moi, j'ai besoin que le Seigneur me ranime le don qu'il m'a donné, le don de la vie de l'esprit. On l'oublie si souvent, hein. Le parler en langue, de se remplir soi-même, etc., etc. Je vous dirais à la limite, je suis pas en train de pleurer, hein. Mais je vous dirais à la limite quand j'étais en pleine activité, c'était nécessaire pour moi. Maintenant, dans mon hamac toute la journée, imaginez-vous, je peux oublier. Mais attendez, hein, j'ai pas dit mon dernier mot. Il dira, je donnerai ma vie pour toi. Et il faut avoir la passion. Un évangéliste, il a la passion des autres. Ça veut pas dire que les autres, ils n'ont pas la passion. Mais c'est ça ce qui va le motiver. Alors, l'état de Pierre était pêcheur. Eh, le petit chapeau là, pêcheur de poissons. Le suivant personnage qui arrive, il était faiseur de tentes. Tiens, c'est bizarre comme histoire. Hein. L'un, il jette le filet, et l'autre, il fait des tentes. Successivement. Enfin, ils sont présentés de cette manière. Lui, il s'appelle Paul. Oui, c'est Paul. Il nous est dit, à un moment donné, il nous est dit dans le livre des Actes, cette parole dans 1 Corinthiens, que je retrouve ma référence, 1 Corinthiens chapitre 3 et versets 5 à 10, parce que c'est important, c'est un petit peu la structure de ce qui va venir en ce qui concerne Paul. 3 à 5, 5 à 10 plutôt. Voilà. Cette parole. Alors 5, hein. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon ce que le Seigneur a donné à chacun. C'est toujours le mot don, hein. Eh bien, que le Seigneur a donné. C'est pas des nominations comme on le trouve dans les institutions religieuses, hein. Voilà, à la suite d'un diplôme de théologie ou autre chose, une reconnaissance. Non, c'est pas ça. J'ai planté, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et ensuite, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, retenez bien, et un autre a bâti dessus. Et que chacun, naturellement, eh bien, prenne grain à la manière dont il bâtit, quoi qu'il en soit. Voici que, après avoir évoqué le ministère, l'appel plutôt de Pierre, voici que se dessine la divine complémentarité des ministères. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes, on a vu Pierre. Les autres comme... Et là, on va voir un petit peu, dans la personnalité de Paul, lui pouvait finalement eh bien, avoir les cinq ministères à la fois. Apôtre, prophète, évangéliste, ouais. À l'Istre, par exemple, il fait de l'évangélisation. Et puis, pasteur et docteur. C'est intéressant. Alors, si quelquefois nous ambitionnons d'avoir un ministère en disant « Seigneur, moi je veux bien un ministère, mais tu me donnes les cinq ministères. » ça va pas, hein. Non, je suis capable des cinq. Bon, enfin, c'est une affaire qui se réglera. Mais toujours est-il que nous apercevons que il y a complémentarité des ministères. Et Pierre va, à ce moment-là, en fonction de certaines orientations et certaines choses, lui va devenir Pierre, je reviens à Pierre. Pierre, donc, va devenir l'apôtre des Juifs. C'est comme ça qu'il écrira, finalement, eh bien là, un message tout à fait particulier pour les Juifs. Et Paul, l'apôtre des païens. Il sera à la fois apôtre et puis missionnaire, on peut dire ça, de cette manière. On pourrait peut-être résumer encore, si nous voulons bien établir les choses, que Pierre a fait le gros œuvre. Il a ouvert la porte, il a jeté le filet, de jour comme de nuit, il a ramené du poisson, à la fois, dans un sens et dans un autre, de la compréhension. Il a fait le gros œuvre. Mais, figurez-vous, que c'est Paul qui aura la charge de construire, de tisser, de filer peut-être, d'édifier l'édifice de l'Église chrétienne. Gros du travail, c'est Pierre, et puis après, Paul va intervenir. Nous allons oser la comparaison. Pierre, symboliquement, jette le filet. à l'aide d'une sorte de nappe. On pourrait, excusez-moi, je vais essayer de mettre l'idée un petit peu, une sorte de nappe que l'on appelle, pour la circonstance, un filet d'évangélisation. La parole de Dieu, simple, accessible à tout le monde, avec des miracles, avec toutes sortes de choses, parce que c'est ça, hein, ce qui est, l'évangéliste est doté de capacités de dons, hein, dons de l'esprit, naturellement. Donc, un filet d'évangélisation, et c'est Paul où il est dit qu'il fabriquait des tentes. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18 et au verset 3, il nous est dit que Paul, avant l'histoire, se lia avec Aquilas et Priscille. Vous en souvenez tout ça, hein? Et il avait tous les trois le même métier. Il demeura donc chez Priscille et Aquila. Il y travailla. Et il nous est dit, entre guillemets, il fabriquait des tentes. Comme il nous était dit plus tôt que Pierre, jetait le filet. Lui, il fabrique des tentes. Et nous allons voir un peu la signification. En quelque sorte, une vulgaire nappe. Vous avez vu les filets que on n'en a plus par chez nous, hein, parce que c'est des chaluts, et etc. C'est de la grosse industrie. Hein. Mais quand vous allez encore dans certaines régions, en Europe ou même ailleurs, vous avez vu le filet qui se déploie comme ça. Hein. Voilà. Et il y a du poisson. Hein, on ramasse du poisson comme ça. Hein. Alors, c'est un geste extraordinaire. Hein. C'est comme le sommeur qui... voilà. Et là, c'est naturellement, eh bien là, fait pour attraper des poissons. Et une vulgaire nappe, hein, est sans forme définie. C'est vrai, elle est carrée, elle est ronde, elle est rectangulaire, tout ce que vous voulez. Mais c'est Paul qui va lui donner, qui va donner à la toile, c'est toujours une pensée particulière, une forme et son utilité, l'image emblématique, celle de la tente, qui va abriter et qui va protéger, qui va servir d'appui et de refuge spirituellement, figurant une tente, figurant naturellement une tente. Et, comme jadis, avant le temple de Jérusalem, il y avait la tente d'assignation. Vous savez, vous suivez, là? Parce qu'il y a, une chronologie dans tout ça. Il y a une chronologie. Et, naturellement, après avoir sauvé des âmes, Pierre a sauvé des âmes, fallait pas les laisser dans la nature. Il fallait leur donner un abri, il fallait leur donner une protection, il fallait leur expliquer ce que c'est que le royaume de Dieu. Sur la terre, pas encore dans le ciel, ça viendra naturellement, la patrie céleste. Mais il y a celui qui jette les filets qui ouvre la porte pour les faire rentrer dans une autre dimension. Et il y a Paul qui va être choisi par Dieu pour lui édifier, enseigner. Il est à la fois prophète, il est à la fois docteur, il est à la fois pasteur. Faut bien les mettre quelque part, ces âmes. Faut bien qu'elles rentrent dans la bergerie. Faut bien qu'elles soient là, et bien, dans une protection. Mais une tente, ça signifie quoi, ça? Qui abrite et qui protège, spirituellement, figurant une tente, naturellement, ou une maison de Dieu. Et depuis des siècles et des siècles, eh bien, les hommes se sont évertués en comprenant peut-être de travers, en faisant des basiliques, des temples et toutes sortes de choses. Mais c'est pas les monuments qui sont importants. C'est la vie qu'il y a à l'intérieur. Et puis, vous dire et vous rappeler, parce que vous le savez, que aujourd'hui, église ou pas église, notre vraie vie spirituelle, elle est dans notre relation avec le Seigneur, Christ en nous. Hein. Parce qu'il y a eu des temps et des temps et des temps qui ont été difficiles, où là, il n'y avait plus rien du tout. Hein. Nos prédécesseurs, les protestants ou les huguenots, je peux vous dire que pendant des centaines d'années, on a brûlé les temples, ils n'avaient plus rien du tout. Aujourd'hui encore, dans certains pays où le christianisme ou l'évangile est condamné, on brûle, on détruit finalement ce que les hommes construisent, mais c'est que de la pierre. Ça n'a qu'une valeur relative. C'est pour ça que notre relation principale, c'est Jésus. Et Jésus, seulement Jésus. Ça, c'est essentiel. Hein. Parce que si, un jour, et ça viendra, hein, si un jour il n'y a plus rien du tout, on n'a plus le droit de se retrouver dans un lieu particulier, on a la chance de vivre dans un pays démocratique où nous avons finalement la possibilité de nous réunir. Mais ça n'a pas été vrai. Ça n'a pas toujours été vrai, cette histoire. Alors, tente d'assignation, donc, c'était l'Ancien Testament, maison de Dieu, telle est l'Église. Et je voudrais souligner la complémentarité entre Pierre et Paul maintenant. Pierre accueille et Paul offre une structure aux âmes perdues, mais sauvées. Pierre s'adressait aux perdus pour qu'ils soient sauvés, et Paul accueillait finalement ceux qui hier étaient perdus pour qu'ils puissent grandir finalement dans ce salut et progresser. Alors, avec Paul, il n'y a plus de grande foule comme à la Pentecôte. Hein. C'est pas le même filet, hein. Non. Mais des églises ici ou là, on le voit aller d'une ville à une autre, on le voit dans des petites communautés, on le voit rentrer dans des maisons, parce que c'était souvent à l'époque des réunions de maisons, hein. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Peut-être que Paul viendrait ce matin dans nos églises, ici, en disant, ben dis donc, hein, la famille est grande. Hein. Mais on n'est pas tous dans la même famille. Mais si on est tous de la même famille, naturellement. Hein. Donc, faiseur de tentes. L'un jetait le filet, l'autre faisait des tentes. Parce que tous ces petits ensembles locaux sont devenus universels. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions, voire peut-être même des milliards de chrétiens. En tous les cas, des millions de chrétiens nés nouveaux. Justement avec ce phénomène, avec ce principe. Hein. Alors, l'enseignement de Paul, c'était de structurer, c'était d'éduquer toutes ces épîtres. Vous savez combien il y en a ? 13. Paul a écrit 13 épîtres. D'avertir, d'exhorter, former une nouvelle humanité pour le royaume des cieux, dont l'ultime but est l'union de Christ avec son Église. C'est ça le but, l'objectif. Paul a su encourager les chrétiens dont il avait le ministère pour finalement les faire croître. Il a su finalement encourager par l'image de la tente, parce qu'une tente, c'est pas une maison. Non, ce n'est pas une maison, parce que la tente évoque la fragilité et la précarité de ce que peut représenter la vie chrétienne. Habiter dans une maison, c'est solide. Habiter toute l'année dans une tente, vous allez voir comment ça flotte. Hein. Pour nous montrer que c'est une vie de précarité que nous avons. Notre vraie vie, elle est là-haut, elle n'est pas ici. Hein. Les gens se font construire des palais, des maisons, toutes sortes de choses. Hein, pour dire, eh bien voilà, nous marquons notre vie, nous marquons notre existence, nous avons réussi ceci et cela. Ce qu'ils le savent, et ils le savent très bien, mais ils ne veulent pas y croire, c'est que de toute façon, il va falloir tout laisser. Mais le chrétien a cette philosophie, nous pourrions dire, de l'attente. Ouais. Parce que si notre corps se détruit de jour en jour, notre vie intérieure se renouvelle pour l'éternité. C'est ça l'image de l'attente. Bien sûr, hein, tout cela. Et ça représente la vie chrétienne. Et de pouvoir, par ces messages dont il était finalement le détenteur et mais qui devait les proclamer, ranimer l'espérance de la foi et la gloire à venir. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que nous vivons avec l'espérance dans nos cœurs, et nous devons la chérir, cette espérance, parce que Jésus revient bientôt. On l'attend, ils l'ont attendu, nous l'attendons, ils l'attendront peut-être encore, mais une chose qui est certaine, c'est ce qui fait la force, c'est que, eh bien, nous savons que Jésus revient bientôt. Regardez autour de vous. Ça bouge, hein? Ça bouge de plus en plus. Maintenant, il y en a qui l'ont dit avant nous, hein. Ça bougeait aussi. Mais on n'a pas à connaître les mystères de Dieu. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il revient bientôt et nous d'être prêts à tout moment. Ça, c'est l'essentiel. Alors, après le message de Pierre, on a vu Pierre. Venez entrer. Il avait la clé, il ouvrait la porte, il jetait son filet. Paul ajoute. Et ça, c'était le message un petit peu résumé de Paul. Demeurez en Christ. Croissez et vivez votre foi. L'un a dit d'une manière, l'autre a dit, et ils ont donné chacun leur explication. Et c'est le complément logique de la vie spirituelle. Parce que, autant Pierre avait cette notion, passion, de dire, eh bien, je donnerai ma vie pour toi. Le slogan de Paul, c'est « L'amour de Christ me presse ». C'est toujours l'amour, hein. Et vous allez voir, on va conclure là-dessus. C'est toujours l'amour. C'est important. Dans la bouche, le message, parler. Le cœur, aimer. Et l'action, c'est-à-dire agir. l'œuvre de Dieu se poursuit avec Paul, parce qu'il nous est présenté comme un sage architecte, nous l'avons lu tout à l'heure, hein. Comme un sage architecte, j'ai bâti dessus. J'ai donné un fondement, j'ai donné des éléments, comme Jésus le résumera dans cette belle parabole, du sable et du roc. C'est important de s'en souvenir. Alors il va poser les fondements de la construction, il va édifier, et là il n'y a pas de négligence, ni de matériaux inappropriés, avec de l'or, de l'argent et des matières précieuses, hein, des matériaux précieux, que la qualité. Je finis avec Jean. Je suis content de moi. Nous arrivons à Jean. Alors, on a parlé de Pierre. Vous avez bien retenu les images principales. Paul. Ce qui caractérise le ministère de Jean, c'est dit dans l'évangile de Matthieu, et on y retourne, au chapitre 4 et au verset 21. C'est le même texte que tout à l'heure, mais un peu plus loin. De là étant allé plus loin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. L'un jette le filet, l'autre est faiseur de tente, et ces deux-là, ils réparent les filets. Intéressant. Vous savez, partout il y a de la vie, il y a de l'usure. C'est vrai? Eh oui, il y a de l'usure. Nous, on s'use aussi, hein? Alors, il faut réparer de temps en temps. Voilà. Hein, d'une façon ou d'une autre. Jean réparait les filets. Vous allez dire que je radote, mais je suis encore conscient de ce que je dis. Rappelons ceci. Pierre jetait les filets. Paul exerçait le métier de faiseur de tente et Jean était réparateur de filets. C'est-à-dire chacun une fonction et pour Jean, cela consistait à conserver, à maintenir en bon état pour continuer. C'est vrai pour toutes les choses qui existent sur cette terre. La vie, le matériel, tout. Parce que vous pouvez faire quelque chose de formidable et si après il n'y a pas d'entretien, ben vous verrez, ça va se désagréger, ça va disparaître. Et puis ça, c'est vite emporté par la nature. Hein. Je peux vous dire que si vous n'avez pas fait votre jardin depuis quelque temps, voilà, pour l'instant ça pousse pas, mais... mais il est vite envahi, hein. Eh ben, c'est la même chose. La vie de l'Église, c'est la même chose. Il peut y avoir des mauvaises herbes qui viennent comme ça, hein. Notre vie spirituelle, si elle n'est pas entretenue, elle va se dégrader à un moment ou à un autre. L'amour fraternel, s'il n'y a pas véritablement d'entretien et de choses favorables, ben, ça finira par... on s'oubliera les uns les autres, tout simplement. Tout simplement. Alors, Jean avait cette fonction-là dont nous venons de souligner, maintenir en bon état. L'articulation, en résumé, de l'Église, Pierre, Paul et Jean, et tous les autres, ceux de tous les siècles, jusqu'à maintenant, dans l'Église de Saint-Nazaire et dans l'Église de Redon, et dans les églises qui sont autour, c'est le même principe, hein. Alors, nous nous apercevons que leur vocation à chacun, pour un temps, pour le lieu, l'endroit, parce que moi je crois vraiment qu'un homme peut être envoyé, un homme, un couple pastoral peut être envoyé pour un endroit particulier. Et il y fera les choses que Dieu voudra qu'il accomplisse. Ce ne sera pas un autre, ce ne sera pas son voisin. On pourrait peut-être dire, mais celui-ci, mais attendez, il a des dons, il a des charismes, etc., etc. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Chacun, Dieu lui a dévolu, eh bien, quelque chose de particulier. C'est vrai. Créer, Pierre. Édifier, Paul. conserver et entretenir, cette troisième phase, c'est un défi. Ouais, c'est un défi permanent devant les menaces, parce que tout s'use. Tout peut s'éroder. Devant les menaces de tout temps qui planent sur l'œuvre de Dieu et la préserver du déclin. Ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin, finalement, de prendre conscience, de la préserver du déclin. Il y a eu un Pierre pour ouvrir, Paul qui a été l'architecte pour bien construire. Et puis, le temps passant, eh bien, il y a Jean. Et c'est pas le fait du hasard que Jean est mort très très vieux, hein, parce qu'il a pu voir les débuts, il a pu voir jusque à la fin du premier siècle, eh bien, ce qui était devenu l'Église apostolique. Et il était là encore, hein, dans l'île de Patmos, hein, puis il a écrit des choses, hein, naturellement. Hein. Eh bien, c'est pareil pour l'Église. Il y a quelquefois des départs fulgurants dans les missions d'évangélisation qui créent des églises. Et puis après, il faut qu'il y ait un autre qui vienne, parce qu'un évangéliste, en principe, il faut pas qu'il reste dans une église. On l'a appris, ça. Il faut qu'il y ait un pasteur après, qui va, lui, faire l'œuvre de Paul, pasteur enseignant. Et puis il viendra un troisième, qui à un moment donné, parce que bon, il y a tendance à finalement baisser les bras, c'est l'histoire de l'église d'Éphèse, on en touchera deux mots tout à l'heure, eh bien, où là, quelque part, il faut être réparateur des filets. Nous, quand on est arrivé il y a 15 ans ici, moi, je crois que Dieu m'a pas donné un grand ministère. Et je le dis, parce que c'est pas me mettre de se monter la tête. Hein. Non. Mais moi, il m'a demandé de venir, de quitter une église qui était très importante, de venir ici pour réparer les brèches. Wow! C'est une drôle d'aventure. Hein, ben vous l'avez vécu pour la plupart d'entre vous, on l'a vécu ensemble. Moi, j'ai pas de chance. Je vais vous dire pourquoi. Mais attendez, j'ai pas fini. Il y en a encore pour une heure et demie, quand même. Vous êtes prêchés de faire le pique-nique. Bon, attendez, il pleut d'abord. Ah non, il fait du soleil. Bon, mais à chaque fois que j'ai, parce que ça fait 40 ans qu'on est dans le ministère, à chaque fois qu'on a commencé quelque chose, ça a toujours été très difficile. Et à chaque fois qu'on a fini quelque chose, ça a toujours été très difficile. Et je me souviens, quand je suis arrivé à Saint-Nazaire, je ne tenais pas debout. J'étais un peu comme Paul, qui dira, vous n'avez pas eu honte de moi, parce que finalement, il parlait de son infirmité, vous comprenez? Et puis après, il y a eu tous les mouvements, il y a eu toutes sortes de choses qu'on a connues, mais c'est le Seigneur qui est le maître souverain de l'église de Saint-Nazaire et de Redon. Et ça s'est bien passé, il a fallu hein, que ça se passe comme ça. Puis bang, au moment où j'allais partir, voilà, je me retrouve finalement en vacances. Mais dans un endroit particulier. Hein. Eh oui, c'était difficile. Mais j'ai considéré que finalement, on a fait une petite œuvre. C'est vrai, modestement, hein, sans vouloir exagérer. Mais il était nécessaire qu'il y ait des brèches qui soient réparées dans cette église. Parce que bon, voilà, il y avait des habitudes qui avaient été prises, il y avait toutes sortes de choses, et puis des gens qui voulaient... voilà, bon, peu importe, on va pas revenir là-dessus, c'est du négatif. Mais moi, ce que je vois, c'est le positif qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, l'église, elle va changer. Non pas demain, parce que c'est toujours le Seigneur. Mais avec d'autres personnalités. Il y en aura d'autres. Hein. Et il y aura nécessairement cette vision qu'il faut avoir, les portes ouvertes, l'entretien, et ensuite le maintien. Maintien debout, hein. Et je crois que ça, c'est important, hein. Donc, Jean reçoit la charge de réparer les brèches et les déchirures occasionnées par les heurts, par les usures dans l'église. Et il faudra que quelqu'un vienne et qui continue, finalement, cette œuvre. Et il fera comme le Seigneur lui dira, parce que même s'il l'a pas vu pour l'instant, parce que moi quand je suis arrivé, je voyais pas tout, mais le Seigneur va nous le montrer. Hein. Et priez pour vos serviteurs, priez pour les serviteurs, priez pour Denis. Moi je vous le dis, hein. Moi je reste avec la conviction que quand Denis a répondu à l'appel, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Et vous pouvez être surpris, parce que vous savez, c'est pas les grands forts, les pasteurs, vous savez, qui sont avec beaucoup de verbes, qui ont une aisance de parler, qui sont en train de promettre toutes sortes de choses. C'est pas cela, hein. C'est souvent ceux qui paraissent pas. ce qui vous arrive malade, ce qui vous arrive quelquefois un peu essoufflé et tout ça. Dieu est capable, parce que ça c'est l'histoire de Gédéon, hein. C'est l'histoire de Timothée. Mes frères et sœurs, faites confiance au Seigneur. Moi je défends personne dans cette affaire. Je défends personne. Vous savez la faillite des chrétiens d'Éphèse, dont le reproche majeur est la perte du premier amour. C'est Jean qui l'a écrit, hein, naturellement. Et c'était pourtant une église qui avait été édifiée par Paul. Comme quoi on peut avoir un Paul, et puis finalement, quelques décennies après, se retrouver dans une situation où Dieu est en... Le Saint-Esprit est en train de dire, eh bien maintenant, ce que je vois contre eux, ce que vous avez, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. La réparation consiste à rétablir l'antidote efficace et redonner en permanence par la parole de Dieu ce remède contre l'ennui, le vieillissement, la routine, l'amour qui s'éteint, les œuvres mortes, la perte de la force d'aimer. Et ça, c'était bien la caractéristique de l'église d'Éphèse. Et c'est bien pour ça que l'Évangile attribue à Jean le titre « l'apôtre de l'amour ». S'il n'y a pas l'amour, pas d'évangélisation, la passion de Pierre. S'il n'y a pas l'amour, l'amour que de Dieu me presse, il n'y aura pas d'édification avec Paul. Et puis là, Jean, il ranime la flamme et le feu divin, c'est essentiel. Alors en conclusion, trois hommes, trois services différents, et trois attributions qui se complètent à la perfection. C'est ce qu'il nous est dit. Pierre est l'homme des commencements, apôtre évangéliste. Pierre est celui qui bâtit l'église, l'enseigne. Il est pasteur et docteur. Les épîtres en font foi. Et puis Jean est celui qui répare et qui maintient la santé spirituelle. En quelque sorte, il est prophète. Quand on voit le livre de l'Apocalypse, on peut pas dire que c'est de la prophétie, hein, naturellement. Aimer dans la vérité. Authenticité et vérité. Mes frères et sœurs, priez pour vos serviteurs de Dieu. Priez pour merci pour le passé. Ah ouais. Moi, je suis content de vous. Priez pour aujourd'hui. Et puis priez pour l'avenir. On ne sait pas ce que nous réserve le monde. Je dis bien le monde parce que ça ne va pas dépendre de nous seulement. Hein. On va prier quelques instants, si vous voulez. Et souvenez-vous de ces trois références. Jeter le filet, édifier, faiseur de tente, et réparation des filets. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que les uns et les autres, Seigneur, malgré tous nos manquements, nos maladresses, eh bien, Seigneur, tu as quand même choisi des hommes pour faire ton œuvre, alors que tu aurais pu prendre des anges. Mais ce n'est pas les anges que tu as sollicités, ce sont des hommes, pour que nous soyons proches des autres hommes, que nous puissions nous identifier à Jésus, l'homme parfait, l'homme éternel, l'homme Dieu. C'est vrai, Seigneur, que nous faisons avec ce que nous croyons devoir faire, mais Seigneur, tant que nous aurons la dépendance de notre vie entre les mains du Saint-Esprit, c'est toi qui vas te glorifier. Et Seigneur, tu nous rappelles dans le prophète que ne pas mépriser les faibles commencements. Parce qu'en effet, Seigneur, c'est là où tu te glorifies le plus. Des choses qui n'existent pas ou des choses qui existent si peu, tu en fais des merveilles et des grandeurs à la splendeur de ton nom. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.